Énergie réactive. J'écoute toujours Principe Actif.
Tu écoutes quelle émission ?
Un auteur, une nouvelle sur Principe Actif.
Chers collègues.
Bonjour Mireille, bonjour Dominique.
Bonjour Mireille, bonjour à tous.
Donc voilà notre rentrée à tous là, littéraire. Et donc pour cette rentrée, cette émission de rentrée, chacun des lecteurs habituels.
Ça va aller Mireille,
donc,
ça
voilà,
va aller.
Philippe, Dominique et Denis aussi. Eh bien, nous allons vous présenter une nouvelle de notre choix et puis on va parler de son auteur. Mais avant, Philippe voulait faire un petit rappel.
Ah, moi je fais toujours un petit rappel hein, aux auditeurs. Cette émission passe le deuxième vendredi de chaque mois à 12h30, si je ne m'abuse. Hein.
À ne pas rater.
À ne pas rater, mais il est toujours possible d'écouter l'intégralité de nos émissions sur le site de Principe Actif. Hein, il y a un bandeau, il y a écrit toutes les émissions, on va à la lettre U, comme un auteur, une nouvelle, et là vous verrez, il y a un menu déroulant et on peut remonter jusqu'à nos toutes premières émissions, vous avez l'embarras du choix.
Voilà, parfait.
Et il y a les rediffs, disait Dominique.
Oui.
C'est-à-dire que les
oui,
émissions parfois. Sont parfois rediffusées.
Dans la alors, semaine.
Voilà. Oui. Là, on maîtrise moins les horaires.
Voilà, c'est un peu aléatoire.
C'est la surprise.
Mais voilà. Eh bien, pour commencer cette nouvelle rentrée, donc Philippe va commencer et il va nous présenter donc un auteur. Alors, qui s'appelle, je ne voudrais pas écorcher son nom.
Rabindranath Tagore.
Voilà, donc oui. Je te laisse présenter l'auteur et puis on passera ta nouvelle après.
C'est plus compliqué qu'André Dupont. Alors, Rabindranath Tagore, il est né en 1861 à Calcutta, en Inde britannique à l'époque. Il est mort en 1941 dans cette même ville. Il était partisan, comme Gandhi, d'une Inde indépendante, mais il ne le verra pas puisque l'Inde est devenue indépendante en 1947. Alors, c'est ce qu'on appelle un polymathe. Je crois qu'on avait déjà utilisé ce terme, Mireille, à propos d'autres écrivains. C'est-à-dire un homme érudit dans de nombreux domaines. Alors, en effet, la liste est longue. Hein, il était compositeur, écrivain, poète, dramaturge, journaliste, peintre et philosophe. Excusez du peu. Hein, c'est...
Oui.
Pour ce qui nous intéresse dans notre émission, on peut dire qu'il a écrit de nombreuses nouvelles. Alors c'était un novateur, un progressiste, un humaniste. Il eut une profonde influence sur la littérature et la musique du Bengale au début du XXe siècle. Il est devenu un mythe en Inde. Il fut le premier écrivain non occidental à recevoir le prix Nobel en 1913. L'hymne indien, qui est toujours en vigueur, a été composé par Tagore. C'était un artiste protéiforme qui a fait évoluer les mœurs de son pays. Alors, un brahmane, issu d'une caste élevée, qui malgré son rang n'a eu de cesse de remettre en cause ce système archaïque, sans renier pour autant sa culture. Il s'appellera Rabindra, c'est-à-dire le soleil, avait dit son père, car plus tard, comme lui, il ira par le monde, et le monde en sera éclairé. Alors cette prédiction s'est réalisée, jusqu'à sa mort, Tagore n'a cessé d'être Gurudev, son autre nom, qui signifie « montrer le chemin ». D'abord connu en Angleterre, parce qu'il transcrivait lui-même certains de ses ouvrages en anglais, Tagore est surtout célèbre en Europe comme auteur de deux recueils de vers, Alors le premier c'est le jardinier d'amour, et le deuxième Gigandjali, c'est-à-dire l'offrande lyrique, traduit par André Gide en 1912. La totalité de ses ouvrages traduits en français ne dépasse pas 25, alors que son œuvre de poète et de penseur comprend environ 120 volumes. Il a eu une vie tragique, il perdit quasiment toute sa famille, femme et enfants, et était très affligé par le déclin du Bengale. Vers la fin de sa vie, il compose son dernier poème en prose, et le réalisateur indien Satyajit Ray adaptera le texte pour en faire un film, Le Monde d'Apu. D'ailleurs, Satyajit Ray adaptera nombre de ses romans et nouvelles. Au cours de sa vie, il a visité plus de 30 pays sur les 5 continents entre 1878 et 1932. Ses déplacements furent primordiaux pour familiariser des publics non indiens à ses travaux et pour diffuser ses idées politiques. Alors, il a fondé un ashram, une université, une école expérimentale. Il défendait la cause des femmes et leur droit à l'éducation et se préoccupait du sort des intouchables, c'est-à-dire des personnes nées de basse caste. Les 4 dernières années de sa vie sont marquées par la maladie. Les poésies qu'il compose alors comptent parmi ses meilleures et sont marquées par la mort. Il meurt en août 41 dans une chambre à l'étage de sa demeure de Jorasanko, le quartier de Calcutta où il a grandi. Cette vie très riche a fait de Tagore un non-conformiste, un pragmatique et un grand humaniste. Et une toute petite citation pour la fin. « Le monde me parle en images, mon âme lui répond en chanson. »
Très bien.
Eh bien voilà Mireille, condensé. Hein.
Condensé. Alors, je vous propose d'écouter donc la nouvelle qui s'intitule « Le squelette », qui vient d'un recueil intitulé « Au bord du Gange et autres nouvelles ».
Dans la chambre qui avoisinait notre dortoir d'enfant, pendait un squelette. La nuit, ses os cliquetaient sous le jeu de la brise. Le jour, nous nous plaisions à les entrechoquer. C'était le temps où un étudiant de l'école de médecine de Campbell nous enseignait l'ostéologie, car nos tuteurs prétendaient nous inculquer la science universelle. Dans quelle mesure ont-ils réussi ? Point n'est besoin de le dire à ceux qui nous connaissent, et mieux vaut sans doute le taire à ceux qui nous ignorent. Bien des années ont passé depuis lors, années au cours desquelles le squelette a disparu de la chambre, comme l'ostéologie de notre mémoire, sans laisser la moindre trace. Récemment, notre maison regorgeait d'invités, et je dus passer la nuit dans cette chambre d'autrefois. En ces parages qui avaient cessé de m'être familiers, le sommeil refusait de venir. Je m'agitais en tous sens et j'entendais l'horloge de l'église voisine sonnant l'une après l'autre toutes les heures de la nuit. La lumière de ma lampe vacilla quelques minutes puis s'éteignit. Ma famille ayant perdu depuis peu quelques-uns de ses membres, l'obscurité devait naturellement m'acheminer vers la pensée de la mort. Par association d'idées, l'image du squelette me revint en mémoire. Tandis que j'essayais de reconstituer le corps dont il avait été revêtu, il me sembla soudain qu'un être rôdait autour de mon lit et allait à tâtons le long des murs. Je percevais son souffle saccadé. Il paraissait chercher quelque objet introuvable et marcher autour de la chambre à pas toujours plus rapide. J'étais dupe, assurément, d'une simple création de mon cerveau surexcité et privé de sommeil, et j'avais pris pour des pas précipités le battement de mes artères dans mes tempes. Et pourtant, je me sentis traversé par un frisson glacial. Pour écarter l'hallucination, je me mis à crier à haute voix. « Qui est là ?» Les pas semblèrent s'arrêter au pied du lit, et une voix répondit « C'est moi, je suis venu examiner mon squelette. » Il eût paru absurde de faire montre de frayeur devant une simple création de mon imagination. Je me contentais de serrer mon oreiller un peu plus étroitement, et je m'écriais d'un ton indifférent « Drôle de besogne à cette heure de la nuit, en quoi ce squelette peut-il donc vous intéresser ?» La réponse parut venir de ma moustiquaire même. « Quelle question ! Les os de ce squelette ont entouré mon cœur. Ils ont vu fleurir le charme juvénile de ma 26e année. Comment résisterais-je au désir de les revoir ?»« C'est là, dis-je à mon tour, un désir tout à fait légitime. Continuez donc vos recherches tandis que je m'efforcerai de trouver le sommeil. » Mais, reprit la voix, j'imagine que vous êtes seul. J'entends m'asseoir un moment et bavarder avec vous. Je me plaisais autrefois à discourir au milieu des humains, mais je n'ai pu au cours de ces 35 dernières années que gémir dans le vent au-dessus des bûchers de la mort. Il me serait agréable de m'entretenir à nouveau avec un homme, ainsi qu'autant jadis. Je sentis qu'un être venait de s'asseoir auprès de mes rideaux. Il fallut me résigner, et faisant appel à toute ma cordialité, « J'en serai enchanté, répartis-je. Cherchons ensemble quelques joyeux sujets de conversation. Je n'aperçois pas de sujet plus plaisant que ma propre histoire. Voulez-vous me permettre de la raconter ?» La pendule de l'église sonnait 2 heures. Au temps où j'étais jeune et où je demeurais au pays des vivants, un être m'inspirait autant de frayeur que la mort elle-même. C'était mon mari. Je ne puis comparer mes sensations qu'à celles du poisson au bout de l'hameçon. On eût dit, en effet, qu'un étranger m'avait agrippé avec l'hameçon le plus aigu pour m'arracher à la calme béatitude de mon foyer d'enfant. Il ne fallait même pas songer à m'échapper. Mon mari mourut 2 mois après notre mariage, tandis que mes parents et amis pleuraient dramatiquement sur son sort. C'est alors que mon beau-père, après avoir minutieusement examiné ma figure, dit à ma belle-mère « Ne voyez-vous donc pas qu'elle a le mauvais œil ?» « Eh bien, vous m'écoutez. J'espère que mon histoire vous intéresse. »« Énormément, répliquai-je. Le début ne manque pas de fantaisie. » Alors je continue. Je retournais pleine d'allégresse à la maison paternelle. Bien que mon entourage s'efforçât de n'en rien faire paraître, j'avais conscience de posséder une beauté aussi rare que radieuse. Qu'en pensez-vous ? « Bah, cela est très vraisemblable. Mais n'oubliez pas que je ne vous ai jamais vu. Jamais ? Et que faites-vous de mon squelette ?» N'importe, je plaisantais. Comment vous faire admettre en effet que ces 2 cavités décharnées aient pu contenir les yeux noirs les plus étincelants et les plus langoureux, ou que le sourire qui illuminait ses lèvres roses ne ressemblait en rien au rictus grimaçant que vous avez connu? Mais ce vieux squelette rigide vous a caché la réalité comme un faux témoignage. Je sens que j'aimerais bannir à tout jamais le sommeil de vos yeux en évoquant l'image rose et vivante de ma beauté de manière à balayer entièrement le misérable fatras ostéologique qui emplit votre cervelle. J'aurais pu, m'écriai-je, jurer par votre corps si celui-ci n'avait cessé d'exister que, loin d'avoir conservé le moindre vestige d'ostéologie, mon esprit se repaît maintenant de l'image radieuse d'une beauté parfaite dont l'éclat se détache sur le fond noir de la nuit. Je ne saurais en dire davantage. Je n'avais point de compagne, poursuivit la voix. Mon unique frère avait décidé de ne pas se marier. J'étais seul dans le gynécée. J'avais accoutumé de m'étendre dans le jardin, à l'ombre des arbres. Je rêvais que l'univers entier m'adorait, que les étoiles, toujours en éveil, s'enivraient de ma splendeur, que la brise poussait de langoureux soupirs lorsque, sous un prétexte quelconque, elle m'effleurait de son aile, et que si mes pas avaient foulé une prairie consciente, leur simple contact lui aurait fait perdre connaissance. Tous les jeunes gens du monde m'apparaissaient comme brins d'herbe à mes pieds. Et je ne sais pourquoi, mon cœur demeurait triste. Lorsque Shekhar, l'ami de mon frère, fut sorti de l'école de médecine, il devint pour nous le médecin de la famille. Je l'avais déjà aperçu à plusieurs reprises, caché derrière un rideau. Mon frère était un homme singulier, qui ne se souciait pas d'ouvrir les yeux sur le monde extérieur. Il estimait que ce monde n'était pas assez désert, et il s'en éloigna graduellement jusqu'à se retirer dans un coin obscur. Shekhar, étant son unique ami, se trouvait par cela même le seul jeune homme que j'eus l'occasion de rencontrer. Et dans la cour d'adorateurs que j'imaginais lors de mes promenades nocturnes, chaque adolescent prosterné à mes pieds empruntait la figure de Shekhar. « Vous m'écoutez ? Que pensez-vous de mon histoire ?» Je répondis en soupirant. « J'eusse aimé être Shekhar. » Attendez un peu, écoutez d'abord la fin du récit. Un jour qu'il pleuvait, j'avais la fièvre, le docteur vint me voir. Ce fut notre première entrevue, je reposais face à la fenêtre et les lueurs du soleil couchant tempéraient la blancheur de mon teint. Lorsque le docteur me regarda, je me mis à sa place et me regardai en imagination. Dans la lumière éclatante du soir, je vis ma figure pâle et délicate, posée comme une fleur languissante sur l'oreiller doux et blanc. Mes boucles folles jouaient sur mon front, tandis que mes paupières timidement baissées répandaient une ombre expressive sur toute ma physionomie. Timidement et à voix basse, le docteur demande à mon frère, « Puis je lui tâtai le pouls. Je sortis des couvertures un poignet rond et alangui, et je pensais en le contemplant. Que n'est-il orné d'un bracelet de saphir ? Jamais je n'avais vu tâter un pouls avec tant de gaucherie. Les doigts du docteur tremblaient au contact de mon bras. S'il mesurait l'intensité de ma fièvre, je jaugeais les battements de son cœur. Vous me comprenez ? Très aisément, dis-je, les battements de notre cœur traduisent nos pensées. Après diverses indispositions, suivies d'autant de guérisons, je m'avisais que le nombre des adorateurs qui s'empressaient à ma cour d'amour imaginaire allait en décroissant pour bientôt être réduit à un seul. Et finalement, mon petit univers fut ramené à un docteur et une malade. À l'occasion de mes réceptions, j'avais coutume de me vêtir en secret d'un sari jaune serin. Je nouais autour de mes cheveux une blanche guirlande de fleurs de jasmin. Puis, un miroir à la main, j'allais retrouver ma place habituelle sous les arbres du jardin. Vous pensez sans doute que la contemplation de notre propre beauté doit à la longue devenir fastidieuse ? Mais il n'en était rien, car je ne me voyais pas avec mes propres yeux. J'étais à la fois une et deux personnes. Je m'examinais comme si j'étais à la place du docteur. Je regardais, je subissais le charme, je débordais d'amour. Mais en dépit des attentions délicates que je me prodiguais, un soupir envahissait mon cœur, gémissant comme la brise du soir. Dès ce moment toutefois, je cessais de me sentir seul. Au cours de mes promenades, je suivais en baissant les yeux le jeu de mes orteils petits et délicats qui foulaient le sable, et je me demandais ce qu'eût ressenti le docteur s'il eût été présent. Je me représentais le soleil de midi envahissant le ciel de son éclat, tandis que le silence n'était troublé que par le cri espacé et lointain d'un vautour. Au-delà des murs du parc, le colporteur poussait son cri harmonieux. « Anneau à vendre ! Anneau de cristal !» Et si nous arrêtions l'histoire ici, qu'en pensez-vous ? Oh, ce serait une fin presque acceptable, répondis-je d'un air rêveur. Le tableau demeurait assurément un peu incomplet, mais je passerais facilement le reste de la nuit à y apporter les dernières retouches. Oui, oui, mais il conserverait un caractère trop sévère. Comment y introduire le rire ? Comment amener le squelette au rictus grimaçant ? Laissez-moi donc poursuivre. Dès que le docteur eut acquis une petite clientèle, il prit une chambre au rez-de-chaussée de notre maison et l'aménagea en cabinet de consultation. À cette époque, je m'amusais souvent à l'interroger sur les effets des médicaments et des poisons, comme sur les doses de telle ou telle drogue susceptible de provoquer le décès d'un homme. Le sujet convenait à sa nature et il le traitait avec éloquence. Ces entretiens eurent pour effet de me familiariser avec l'idée de la mort. Et c'est ainsi que l'amour et la mort peuplèrent bientôt seul mon univers intérieur. Mon histoire touche maintenant à sa fin. Nous arrivons à la dernière période. Nous arrivons aussi, murmurai-je, à la dernière période de la nuit. Au bout d'un certain temps, je remarquai chez le docteur une étrange inquiétude. Il paraissait avoir honte d'une chose qu'il s'efforçait de me dissimuler. Il vint une fois, vêtu avec une certaine élégance, emprunter pour la soirée la voiture de mon frère. En proie à une vive curiosité, je résolus d'interroger ce dernier. Après avoir parlé de choses et d'autres, je lui demandai finalement « Au fait, où donc va le docteur ce soir avec ta voiture ?» Mon frère répondit brièvement « À la mort. »« Dis-moi, je t'en conjure, » insistai-je, « où se rend-il réellement ?»« Il va se marier, » répondit mon frère d'une manière plus explicite. « Oh, vraiment ?» m'écriai-je avec un rire bruyant et prolongé. J'appris bientôt que la fiancée était une riche héritière qui devait apporter au docteur une fortune considérable. Mais pourquoi m'avait-il insulté en me cachant ses projets ? L'avais-je jamais prié ? Lui avais-je même demandé de ne pas se marier pour ne pas me briser le cœur ? Les hommes ne méritent aucune confiance. Je n'avais connu qu'un homme dans ma vie et un instant me suffisait pour découvrir cette vérité. Lorsque le docteur revint de son travail et fut prêt à partir, je lui dis en éclatant de rire « Eh bien docteur, vous allez donc vous marier ce soir ?» Non seulement ma gaieté lui fit perdre contenance, mais elle l'irrita violemment. « Comment se fait-il, poursuivis-je, que je n'aperçoive aucun orchestre ?» Il répondit avec un soupir. « Le mariage est-il donc un événement si joyeux ?» Je fus reprise d'un rire inextinguible. « Non, 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 lui dis-je, c'est impossible. Peut-on concevoir un mariage sans lumière et sans musique ?» J'importunais mon frère à tel point qu'il commanda finalement les préparatifs d'un gai mariage. Je ne cessais un instant de deviser joyeusement de la fiancée, des événements qui allaient se dérouler, de mon attitude en présence de la nouvelle venue. « Et vous, docteur, demandai-je, continuerez-vous à tâter d'époux ?» Bien que le travail intérieur de l'esprit demeure invisible, surtout chez les hommes, je peux affirmer que mes paroles perçaient le cœur de mon interlocuteur, ainsi que des dards acérés. Le mariage devait être célébré tard dans la nuit. Avant de partir, le docteur et mon frère prirent un verre de vin sur la terrasse, suivant leur habitude journalière. La lune venait de se lever. Je poursuivis en souriant. « N'avez-vous pas oublié votre mariage ? Il est temps de partir. » Ici, je vous dois un détail. J'avais couru entre-temps jusqu'au dispensaire et j'y avais pris une certaine poudre pour la verser en cachette dans le verre du docteur. Et le docteur vida le verre d'un seul trait. Puis, d'une voix lourde d'émotion et accompagnée d'un regard qui me transperça jusqu'au cœur, « Je vais partir, » dit-il. La musique commença à jouer. Je rentrai dans ma chambre et revêtis ma robe de noces toute tissée d'argent et d'or. Je sortis de leur coffre mes bijoux et mes ornements et m'emparai. Je mis sur mes cheveux le signe rouge qui désigne l'épouse. Et sous les arbres du jardin, je préparai ma couche. La nuit était admirable. Le doux vent du sud dissipait la lassitude du monde. Des senteurs de jasmin et de bella emplissaient le jardin d'allégresse. Le son de l'orchestre me parvenait toujours, mais plus faible. La lumière de la lune pâlissait insensiblement. Le monde, avec l'image du foyer familial que nous portons en nous toute la vie, s'effaçait de mes perceptions, comme une illusion. Alors, je fermai les yeux et je souris. J'imaginais que ceux qui allaient venir contempler mon sourire attardé sur mes lèvres comme une trace de vin rose et que je pénétrais lentement dans la chambre de mes noces éternelles, le visage illuminé par le même sourire. Hélas pour la chambre de mes noces, hélas, hélas pour ma robe tissée d'or et d'argent, lorsque je m'éveillais au son d'un cliquetis d'os qui semblait émaner de moi-même, je me trouvais en présence de 3 enfants qui apprenaient l'ostéologie sur mon squelette. Dans cette poitrine où avaient palpité mes joies et mes peines, où les pétales de ma jeunesse s'étaient ouverts un à un, le maître indiquait de son index chacun de mes os. Et ce dernier sourire que j'avais étudié avec tant de sollicitude, en avez-vous aperçu la moindre trace ? Eh bien, comment trouvez-vous mon histoire ? Elle m'a paru fort agréable, répondis-je. En cet instant, le premier corbeau se mit à croasser. Êtes-vous là ? Demandai-je. Personne ne répondit. La lumière du matin entra dans ma chambre.
Et vous, alors, est-ce que vous avez trouvé cette histoire très agréable ?
Oui, bah voilà comment on se retrouve sous la forme d'un tados.
Bien, alors là, on va passer dans un tout autre univers.
Oui. Rien à voir.
Voilà, donc celui plus
rural.
paysan. Donc, Dominique, tu vas nous présenter Maurice Fombeur.
Donc voilà, je vais vous parler de Maurice Fombeur. Alors, c'est un poète dont on apprenait les poésies à l'école quand on était enfant. Dans la petite école de campagne de Grosseuve où j'étais, on en apprenait souvent, je me souviens. Surtout à l'automne, par exemple.
Tout à fait, j'en ai appris aussi.
Voilà, un peu très facile à apprendre pour les enfants. Donc, ce Maurice Fombeur, il est du XXe siècle. Il est né en 1906 et décédé en 1981. On dit qu'il est poète, mais aussi écrivain. Il faisait aussi de la prose. Il est né dans le Poitou, dans un petit village de la Vienne, dans une famille d'agriculteurs, dans un tout petit hameau qui s'appelle Augeron, près de la commune de Bonneuil-Matour, plutôt dans le nord de la Vienne, du côté de Châtellerault. C'est un enfant très sensible apparemment. Il est élevé par ses grands-parents maternels puisqu'il a perdu sa maman dès la naissance. Son père vit dans la même famille avec eux. Il est très marqué par son enfance dans un petit village, près des bois, près de la forêt, près de la rivière. Et tout ça se déroule, les nouvelles que j'ai choisies vont se dérouler pendant la période 14-18. Il est très bon élève à l'école, il a étudié au collège de Châtellerault, puis à l'école normale de Poitiers en 1922. Il a commencé à écrire très tôt des poèmes, beaucoup de poèmes, des nouvelles. Et souvent, ses poèmes et ses nouvelles ont trait à l'enfance qu'il a vécue. Il est devenu professeur de lettres toute sa carrière, d'abord dans les Vosges, à Arras ensuite, et ensuite en région parisienne à Saint-Germain-en-Laye. Les poèmes et les textes qu'il écrit sont souvent en lien avec son enfance et la nature. Les nouvelles que j'ai choisies proviennent d'un livre qui s'appelle « La rivière aux oies ». Ce sont des récits qui se déroulent dans le petit village natal qu'il a connu. Les mots qu'il utilise, ce sont les mots de la vie de tous les jours. On disait de lui qu'il écrivait comme il parlait. Il est très vif dès l'école primaire. Il avait la passion des arbres, de la neige et des oiseaux. Les deux nouvelles que j'ai choisies parlent donc des animaux de la campagne. La première s'appelle « Animaux domestiques » et la deuxième « Animaux du soir ».
Voilà, alors je vous propose de les écouter maintenant, et donc on va les mettre l'une à la suite de l'autre, quoi.
Vous êtes pour beaucoup dans cet amour que j'ai de la campagne et de la terre, animaux des champs et des fermes, animaux que je ne puis malgré moi appeler sauvages, et vous, chers animaux domestiques. Je vous ai aimé de très bonne heure, je marchais à peine que déjà, il fallait courir me relever sous les pattes des chevaux dans l'écurie. Ils me regardaient de leurs gros yeux ovales et clairs, et ils ne m'ont jamais fait aucun mal. J'aimais aussi coucher dans la chambre des valets, au-dessus de l'écurie, auprès des abats-foins, d'où je les entendais racler la nuit et l'aube, secouer leurs chaînes, renacler et se retourner en plein sommeil contre les bas-flancs sonores. Je les ai souvent conduits à la fosse ou à l'abreuvoir, me hissais sur eux, à bout de bras. Je m'accrochais à leur épaisse crinière de percheron. Même, une fois que je m'étais juché sur le cou de la pélagie, celle-ci, sans s'occuper de moi, avait baissé la tête pour boire d'un seul coup et m'avait envoyé au milieu de la mare. On m'a sorti suffoqué, pouvant à peine pleurer et couvert de vases et de têtards minuscules. Les bœufs m'effrayaient un peu. Je n'aimais pas les voir baver longuement avec des mouches plein les yeux. Et puis Merlet, agacé par ces mouches, avait coincé ma grand-mère contre un mur et lui avait fendu le pouce d'un coup de corne. J'aimais mieux les vaches et les taures que je menais au champ pendant la guerre. Elles allaient deux par deux et parfois, en cours de route, elles posaient leurs mufles sur le cou de la voisine. La chienne, parisienne, me battait les mollets de sa queue, s'attardait à flairer les fossés, puis filait brusquement pour japper en avant à la grande terreur de mon petit troupeau. Elle était excellente pour garder les bêtes parce qu'elle mordait aux pieds, ce qui me dégoûtait un peu. Je la trouvais sournoise, mais chacun son métier, n'est-ce pas? Ce sont les chèvres que j'ai le plus détestées. Leur humeur fantasque me donnait beaucoup de fil à retordre. Au lieu de suivre les vaches, elles s'échappaient pour s'en aller à